Bienvenue à ce discours. Comme je disais au cercle de partage, je me réjouis de ces territoires dans lesquels j'ai envie de vous emmener. Et là, comment je me sens? Je me sens comme si je vous amenais en Inde, pays tellement différent de tout ce qu'on connaît. Et j'y ai passé 7 ou 8 ans et j'en connais tellement peu, en fait, de l'Inde. Et je me sens comme ça. Là, bien que j'ai déjà pas mal cherché dans les directions dont je vais vous parler, j'en connais tellement peu, en fait. Et en même temps, j'ai envie de vous emmener en Inde quand même. Et puis, il y a une autre contrainte, c'est que c'est comme si on allait en Inde 1 heure. Et que j'avais 1 heure pour vous montrer l'Inde que j'aime. Et donc, voilà, c'est une contrainte. C'est difficile parfois d'entrer dans des grands espaces parce que pour pouvoir être compréhensible, il faut qu'il y ait d'autres compréhensions qui soient au fondement. Et donc, il se pourrait que entre cette vision si peu familière même du dharma et aussi ce manque pour ma part de capacité, d'une cohérence dans ces mondes dans lesquels je désire vous emmener. Et le peu de temps qu'on a pour amener tous les éléments qui seraient nécessaires, entre tout ça, il est fort probable qu'il y ait plein de choses qui restent en suspens pour vous. Et si je pense que c'est intéressant de pratiquer ce genre d'exercice, c'est parce que c'est typiquement, moi je me rappelle de discours qui m'inspiraient énormément et auxquels je ne comprenais pas grand-chose, mais j'étais quand même très très inspiré. Ça me donnait l'envie de chercher en fait. Et c'est ça que j'ai envie d'aspirer. J'ai envie d'aspirer des nouvelles questions, ou de pousser plus loin des questionnements qui sont déjà là, d'ouvrir de nouvelles perspectives, aussi bien dans notre réflexion que dans notre pratique. Voilà, et donc comme j'aime à le dire, j'ai l'espoir que vous sortirez de ce discours, mais aussi de cette retraite, de toute façon, avec plus de questions que quand vous êtes arrivé, et pas avec trop de réponses. Parce que c'est les questions qui dirigent le regard, qui motivent la recherche. Une chose qu'il faut savoir pour aller dans ce genre de direction, qui est finalement assez philosophique, c'est que dans ma compréhension du dharma et du chemin spirituel, ce qui transforme en profondeur, c'est la compréhension. L'expérience à laquelle on ne réussit pas à donner un sens, et qu'on ne réussit pas à intégrer dans notre cadre conceptuel, reste une expérience un peu en dehors, et si elle n'a pas un cadre conceptuel pour être incluse dans notre manière de voir, de nous voir nous-mêmes et de voir le monde, en fait, ça restera juste une expérience qui, à un moment, peut-être même va disparaître. On ne se rappellera pas. Parce qu'elle ne sera, elle ne sera pas, on ne pourra pas la mettre en lien avec rien de ce qui est notre cadre conceptuel. Et on peut avoir, parfois en méditation, des expériences profondes, ou en méditation, ou en marchant en forêt, ou au moment d'un accident, ou à la perte d'un proche, on peut avoir une sensation de vraiment quelque chose d'autre. Parce que c'est de ça qu'on parle dans le dharma, on parle de vraiment quelque chose d'autre. On parle aussi de familièrement, par exemple, on a parlé de gratitude, c'est très très important. Mais à d'autres niveaux du dharma, on parle de quelque chose de tout autre, en fait, d'un autre paradigme d'être. Et parfois, on a des expériences comme ça qui nous font toucher, parfois avec des psychédéliques ou des choses comme ça qui nous font toucher à l'ouverture à tout autre, mais on ne sait pas quoi en faire. Et du coup, on n'en fait rien. Et du coup, ça ne change pas la manière dont on voit, ça ne change pas la manière dont on vit, ça ne change pas la manière dont on se vit soi-même. L'expérience en elle-même, du coup, ne va pas nous transformer vraiment. C'est la compréhension de cette expérience qui va nous transformer. Et c'est pour ça, je pense, qu'une réflexion philosophique doit accompagner notre cheminement. Donc, c'est pas juste pour le plaisir des idées et de jouer avec les idées, en fait, qu'il y a ce genre de discours et d'exploration. C'est vraiment pour élargir notre regard. Alors la question, c'est par où est-ce que je commence? Hein? On arrive en Inde, on atterrit à Delhi, alors où est-ce qu'on va? Plutôt vers l'Himalaya, plutôt vers la mer ou vers Bénarès, ou où est-ce qu'on commence? Ok. Donc dans le discours précédent, je parlais de, je citais cette petite histoire du Bouddha qui sort de sa case et qui dit au moine, vous pouvez marcher aussi longtemps que vous voulez dans n'importe quelle direction et vous ne verrez pas la fin du monde. Vous n'arriverez jamais au bout du monde. Et pourtant, je vous dis moine que si vous ne voyez pas la fin du monde, vous ne trouverez jamais le nirvana. Vous ne serez jamais libre de la souffrance ou quelque chose, je ne sais pas exactement. C'est pas dans ses propres termes, mais c'est ça l'idée de sa citation. Et là, il rentre dans sa case et les moines sont là à se gratter la tête et à dire, bon, qu'est-ce qu'il a voulu dire exactement là? On peut marcher aussi longtemps qu'on veut, on ne verra pas la fin du monde, on ne verra pas le bout du monde, et pourtant, si on ne voit pas la fin du monde, le bout du monde, eh ben, on n'atteindra pas le nirvana. Et en fait, il y a une distinction très intéressante là, c'est que il commence avec une notion un peu objective. Il y a le monde, il y a le monde, il est là, on peut le voir. Là, et vous pouvez partir dans n'importe quelle direction et vous n'arriverez jamais au bout de ce monde. C'est une vision objective du monde. Et puis après ça, il passe sur un mode subjectif, et ça, un mode qu'on va appeler phénoménologique. Et souvent, le Bouddha parlait d'une façon phénoménologique. Et c'est ça que je voudrais expliquer notamment. C'est que, en fait, voir la fin du monde, là, il passe sur un autre mode et c'est voir en soi la fin du monde, c'est-à-dire en méditation, de voir la cessation de la perception et le monde qui s'arrête en soi. Ça, c'est phénoménologique. Parlez pas de la fin du monde ou du bout du monde ontologique, on dit donc dans la réalité externe, extérieure, objective. Et beaucoup d'enseignements comme ça sont phénoménologiques. Donc ils parlent à notre expérience, ils parlent de notre expérience. Et la phénoménologie en tant que discipline philosophique, c'est très récent. Bizarrement, c'est très récent, je crois que c'est 1900, vers le début 1900. C'est Husserl, le philosophe Husserl, qui a établi en fait les bases de la phénoménologie. Et puis après ça a été beaucoup repris par un philosophe Heidegger. Et c'est vraiment donc une définition, c'est l'étude des phénomènes tels qu'ils se manifestent dans notre expérience. Donc plutôt que d'étudier les phénomènes comme le font à la manière scientifique, quelle est la nature de cette pierre, quelle est la nature de cet arbre, quelle est son essence, quelle est de toute chose en fait, comme la science l'étudie, en faisant des expériences et en essayant de déterminer quelle est la nature des choses, du cosmos, de toute chose. La phénoménologie, en fait, étudie comment les choses apparaissent en nous. Quelle est l'expérience que nous faisons des choses. Et la phénoménologie va dire, ça, cette expérience est réelle pour nous. C'est une réalité. Et cette approche de la phénoménologie est, à mon sens, essentielle d'aborder pour notre chemin spirituel, pour notre connaissance de nous-mêmes, de savoir qu'en fait, on ne peut pas percevoir le monde tel qu'il est. On ne peut jamais dire les choses sont comme ça. On peut dire c'est comme ça que je perçois les choses. Parce qu'elles passent toujours par nous et par nos organes de perception et puis par nos processus de compréhension avant de devenir une réalité pour nous. C'est quelque chose qu'on devrait apprendre dès la plus tendre enfance, en fait. Quand on dit ce repas est bon, c'est ontologique. Ça veut dire qu'on dit que ce repas, dans sa nature propre, est bon. Mais en fait, c'est pas vrai. Ce repas n'est ni bon ni pas bon. Je trouve que ce repas est bon. Ce repas me plaît. Mais on ne peut pas dire que le bon est une caractéristique intrinsèque du repas. Donc c'est, en fait, toute expérience ne peut être que subjective. On ne peut pas faire une expérience objective. Et on n'est pas conscient de ça. Et le fait qu'on ne soit pas conscient de ça pose énormément de problèmes, génère énormément de conflits. Donc c'est quelque chose dont il faut qu'on le comprenne, ça. C'est seulement à travers la compréhension qu'on va pouvoir se libérer de ce genre d'idées erronées. Que les choses que je perçois existent telles que je les perçois en elles-mêmes et par elles-mêmes. Une citation du Bouddha. Les yeux, les oreilles et le nez ne sont pas des facteurs de connaissance fiables. Pas plus que ne le sont la langue et le corps. Donc on ne peut pas dire que à travers nos cinq sens, on peut connaître le monde tel qu'il est. Comme c'est quelque chose dont j'ai déjà souvent parlé, je vais y passer assez vite, mais ça aide à comprendre. Par exemple, si je suis assis à côté d'un chien et d'une mouche, et que tous les trois on regarde un arbre, il est impossible pour moi de savoir comment le chien voit l'arbre et comment la mouche voit l'arbre. Impossible. Et imaginez la mouche avec toutes ses facettes. Elle a des organes de perception bien différents des miens. Mais en plus, c'est déjà la fenêtre de perception, les vibrations, les ondes vibratoires qui transmettent l'image de l'arbre vont arriver et être perçues par un organe très différent. Et puis après, il y a le cerveau qui va interpréter tout ça et qui va reconstruire une image, parce que c'est pas une image qui arrive, c'est des ondes. Et le cerveau lui va produire une image cohérente. Et ça, c'est expliqué par un neuroscientifique qui s'appelle Wolf Singer et qui dit ceci. Nous considérons la perception comme un processus actif et structurant. Donc la perception, ça revient à ce dont on parlait tout à l'heure, la perception comme un processus actif, donc c'est pas passif, on ne reçoit pas les images d'une façon passive, c'est un processus actif et structurant. Grâce auquel le cerveau utilise sa connaissance a priori du monde, donc a priori c'est-à-dire sa connaissance qu'il a acquise avant qu'on soit conscient, pour interpréter les signaux envoyés par les organes sensoriels. Donc nos organes sensoriels envoient des signaux au cerveau, et lui en fonction de ces signaux, électromagnétiques, chimiques, il reconstruit l'image la plus probable de ce qui a été perçu. Donc il fabrique une image de la réalité qui est le plus cohérente possible. Une part substantielle de l'architecture fonctionnelle du cerveau est déterminée par les gènes. Cette connaissance, qui est une connaissance liée aux conditions qui prévalaient dans le monde préculturel et qui a été acquise grâce au processus adaptatif de l'évolution, est stockée dans les gènes. Donc ça en fait, il nous dit que on est avec déjà toute une machine qui est prête à interpréter les perceptions, c'est-à-dire à recevoir des vibrations, des ondes, et à en faire des images. On hérite ça de nos ancêtres. Par exemple, les couleurs ne sont pas vraiment des couleurs. Nous percevons des couleurs. Chaque couleur a une onde vibratoire qui est mesurable, et quand elle impacte les yeux, à ce moment-là, elle va être interprétée et on va lui attribuer rouge, bleu, jaune, vert. Et ça, c'est quelque chose qui s'est développé sur des milliers d'années par notre espèce. Impossible pour nous de savoir si les autres espèces ont développé la même interprétation de cette onde. Et donc là, il dit ce que je disais tout à l'heure. Alors, où est-ce que je reprends ? Cette connaissance qui est essentiellement liée aux conditions qui prévalaient dans le monde préculturel, avant maintenant, et a été acquise grâce au processus adaptatif de l'évolution, est stockée dans les gènes. Elle est déjà présente dans l'architecture fonctionnelle du cerveau du nouveau-né. Cette connaissance est implicite. Cela signifie que nous n'en sommes pas conscients parce que nous n'étions pas là au moment où nous l'avons acquise. Nous y recourons pourtant pour interpréter les signaux que nous envoient nos organes sensoriels. Sans cette immense base de données fournie par cette connaissance a priori, nous serions incapables de donner un sens à nos perceptions. Donc très souvent, ce qui nous apparaît comme des évidences, en fait, est une façon subjective de voir. C'est absolument nécessaire pour vivre, surtout à ce stade. Là, on parle vraiment de la perception. Mais parfois, ça pose certains problèmes. Pendant très longtemps, la science, en fait, a étudié la nature telle quelle, en inférant comme paradigme de base que les choses existaient indépendamment les unes des autres et qu'on pouvait les disséquer, les peser, et que par l'observation, on pouvait déduire des conclusions solides sur la nature de la réalité de chaque chose. Et ça a changé grandement avec Galilée, donc vers les 16-17e par là. Galilée, c'est le premier, en tout cas il est considéré comme étant le premier, et d'ailleurs c'est un grand tournant dans la science, qui a démontré en fait que la réflexion, la logique et l'imagination pouvaient nous apprendre à voir le réel d'une façon qu'on ne pouvait pas percevoir avec les cinq sens. Il a commencé une tradition qui a été très très utilisée et de plus en plus. Et j'y viens en fait parce qu'on l'utilise aussi en méditation et dans notre quotidien d'ailleurs. Et donc il a procédé à une expérience de pensée. L'expérience de pensée, elle est assez simple à comprendre. C'était par rapport à la gravité, par rapport au fait que donc la gravité à ce moment-là. La loi d'Aristote, c'était que des objets, en fonction de leur masse, ce qui pèse, tombent à une certaine vitesse. Et un objet d'une masse plus lourde tombera plus vite qu'un objet d'une masse légère. Et donc, Galilée, il s'est dit, mais il y a un truc qui cloche là-dedans. Il dit, parce qu'imaginez maintenant qu'on prenne une pierre très lourde et une pierre très légère. Alors la loi en vigueur, d'Aristote dit, que si on lâche les deux en même temps depuis la tour de Pise, la pierre lourde va arriver avant la pierre légère due à sa masse. Il dit, mais pourtant, si c'est le cas, alors ça veut dire que si on attache, et c'est là l'expérience de pensée, si on attache la pierre légère à la pierre lourde, avec une corde, les deux pierres ensemble forment une masse plus grande, donc devraient tomber plus vite. Logique. Parfaitement logique. Sauf qu'il dit, la pierre légère étant plus légère que la pierre lourde, elle devrait ralentir la pierre lourde parce que la corde va se tendre, et du coup empêcher la pierre lourde et ralentir le tout. Logique, mais contradictoire. Ces deux notions sont, le raisonnement est juste dans un sens comme dans l'autre, et pourtant ce raisonnement se contredit. Si le raisonnement se contredit, alors c'est que c'est faux. Et de là, il dit qu'il doit y avoir d'autres raisons pour lesquelles un corps d'une plus grande masse tombe plus vite qu'un corps d'une plus petite masse. Et il fait l'hypothèse que, en fait, il y a notamment le frottement de l'air. Et que s'il n'y avait pas le frottement de l'air, voilà, il y aurait pas cette différence en fait. Et c'est là que Apollo, je ne sais plus combien, elle est sympa cette petite vidéo, vous pouvez aller le voir, quand ils sont arrivés sur la Lune, en hommage à Galilée, mais 400 ans après, on fait l'expérience du marteau et de la plume, et donc on voit. À des astronautes qui sortent sur la Lune, qui prend un marteau et une plume, qui les lâche, et les deux tombent à la même vitesse et arrivent au même moment sur le sol. Et donc Galilée a trouvé une loi physique absolument contraire à tout ce qu'on peut observer. Et là, la science a changé. Et là, la science a changé complètement sa manière d'aborder le réel. Et Einstein, lui, a été après le maître des expériences de pensée. C'était à un tel point, il en faisait tellement, et il a découvert toutes les grandes lois qu'Einstein a trouvées, il les a trouvées grâce à des expériences de pensée. Et c'était à un tel point qu'il se posait la question de savoir si on pouvait connaître le réel sans mener aucune expérience en laboratoire, mais juste grâce aux expériences de pensée, qui incluent l'imagination, et la logique. Et Einstein, quand il décrivait les expériences de pensée, il disait que il imaginait des situations. Par exemple, il s'imaginait assis sur un rayon de lumière et il se demande, si je vais à la vitesse de la lumière, je suis assis sur un rayon de lumière, qu'est-ce que je vois? Est-ce que les images s'éloignent de moi? À quelle vitesse? À la vitesse de la lumière? Du coup, ça veut dire que la vitesse de la lumière se multiplie. Vous voyez? Et là, quand il imaginait ça, il se sentait comme assis sur un rayon de lumière. Il se mettait, il faisait souvent, dans ses expériences de pensée, non, ça c'est autre chose, il viendra après. Mais il a une autre expérience de pensée qui est vachement sympa, parce que ça nous montre en fait comment la science utilise l'imagination pour découvrir le réel. C'est, je vais essayer de le faire court parce que le discours n'est pas que à propos de la méthode scientifique, mais il s'imagine dans un ascenseur, parce que ça venait d'un ascenseur, mais il s'imagine dans une boîte fermée. Il se dit, si j'étais dans une boîte fermée, dans l'espace, avec attaché par une corde et un géant qui tire sur la corde avec une accélération progressive et continue, et qu'il n'y a aucune vibration et qu'il n'y a aucune fenêtre, je peux avoir tous les instruments de mesure que je veux, je serai incapable de dire si je suis soumis à la force de l'accélération dans un espace sans gravité, hein, puisqu'il est dans le vide de l'espace, ou si je suis simplement posé dans cette boîte sur le sol et soumis à la force de la gravité. C'est-à-dire que s'il lâche un truc, ça tombe, dans les deux circonstances. S'il est dans une boîte dans l'espace, avec l'accélération constante, il y aura du coup un haut et un bas, il va lâcher un truc, ça va aller vers le bas. Et si la boîte est sur Terre et qu'il lâche un truc, ça va tomber. Donc, il n'y a aucune manière de voir la différence entre l'accélération et la gravité. Et ce genre de réflexion l'ont amené à des conclusions, et qui l'ont amené à ces conclusions sur la théorie de l'espace-temps. Et quand il s'imaginait, il disait, c'est physique. Mes compréhensions étaient d'abord physiques. Toute compréhension est d'abord venue dans mon corps. Je l'ai ressenti. Et puis après ça, parfois il dit, même c'était difficile de les faire remonter à la tête pour les comprendre. Et certaines de ses compréhensions, et notamment la plus belle de ses compréhensions, est venue pendant ses siestes où il s'asseyait sur un tabouret sans s'asseoir, sans s'appuyer, pardon. Il s'asseyait sur un tabouret. Il fermait les yeux et il se laissait aller dans cette espèce de demi-sommeil. Et là, il se posait les questions avec une telle intensité. Parce que c'était le feu qui brûle à l'intérieur de lui, ces questions-là. C'était la passion que les réponses lui venaient. Clac, il voyait. Et là, il sentait son corps qui tombait dans l'espace et voilà, il comprenait quelque chose sur la gravité. C'est pour ça que, par exemple, Bachelard, un philosophe des sciences, disait penser, c'est penser contre son cerveau. Parce que tout nous dit que les choses sont comme ça. Tout nous dit que les choses sont comme ça. Et en fait, elles ne sont pas comme ça. Vraiment penser, c'est penser contre son cerveau. Une définition des expériences de pensée d'Étienne Klein. Une expérience de pensée se conduit dans le laboratoire de l'esprit. Elle est une fiction qui peut devenir porteuse de savoir. Elle permet de garder le monde empirique, donc c'est-à-dire le monde des cinq sens. Elle permet de garder le monde empirique à distance. On le prolonge dans une sorte d'ailleurs, en regardant, je dirais même en faisant l'expérience sentie des implications d'une théorie prise comme référence. De telles expériences qui associent la réflexion à l'imagination suffisent parfois pour découvrir les lois de la nature. Et ça fonctionne pour les lois ontologiques, c'est-à-dire ce que fait la science traditionnellement, de voir comment les choses sont en elles-mêmes, mais ça fonctionne aussi pour les expériences phénoménologiques. C'est-à-dire que nous aussi, on peut faire des expériences de pensée et vivre la sensation de cette manière de voir. Et c'est ce qu'on a fait, par exemple, en méta. On est là, on imagine quelqu'un, on lui souhaite quelque chose et on vit une expérience teintée d'amour. Hein? C'est une expérience de pensée. C'est une manière de voir. chaque manière de voir nous fait voir le monde d'une manière différente, nous fait percevoir une chose d'une manière différente, à tous les niveaux de notre expérience, du plus basique de la perception, comme je le décrivais avec les couleurs, qui est profondément inscrit et inchangeable, pas changer la manière dont on voit les couleurs, c'est, je veux dire, c'est transmis dans les gènes, et c'est dans l'architecture, au plus profond de l'architecture cérébrale, puis il y a des manières de voir qui sont changeables, par exemple, imaginez le racisme, eh ben, c'est une manière de voir, c'est les étrangers qui viennent et nous prennent notre travail, et du coup c'est pour ça que nous on a des difficultés de gagner de l'argent, ça c'est une manière de voir ça, qui nous fait du coup percevoir les étrangers et le fonctionnement du monde. Et puis peut-être que en entendant une autre philosophie, en discutant avec des gens, à un moment on voit que non, ça, en fait c'est pas ça, on adopte une autre philosophie et notre manière de voir va changer et du coup notre manière de percevoir va changer. Donc à tous les niveaux, du niveau le plus basique jusqu'au niveau le plus complexe. On disait par exemple quelqu'un ne nous attire pas dans son énergie, c'est un exemple, une question, quelqu'un, on sent quelque chose qui nous repousse, et puis après vient on entend l'histoire de cette personne et on sait ce qu'elle a vécu et on comprend d'où vient cette tension et d'où vient cet aspect non invitant quelque part, hop, et on va voir cette personne d'une façon complètement différente. Notre manière de voir change. Du coup, notre relation à cette personne va changer. Donc, du plus profond de notre perception, vraiment la perception sensorielle, jusqu'au plus de base psychologique, les manières de voir déterminent la relation qu'on a au phénomène. Et on pourra aller plus loin avec ça, mais pour le moment, restons-en là. Prenons par exemple si on adopte la manière de voir du moment présent. Le moment présent est une manière de voir. Ça veut dire que on va voir les choses sans rien ajouter. On essaie de ne rien ajouter et de percevoir quelque part les choses telles qu'elles nous apparaissent. Ça va être une manière de voir. Si on voit, c'est ce qu'on faisait aussi tout à l'heure, on aurait pu faire le scan corporel, voir les sensations telles qu'elles sont sans rien y rajouter. Ça aurait été une définition du moment présent. On aurait vu le corps, et ça aurait été la pleine conscience du corps, sans rien rajouter. Nous, on a ajouté une autre manière de voir, en plus de la pleine conscience du corps, on a ajouté la gratitude. Et ça a changé notre expérience du corps. La gratitude est une manière de voir. Une autre manière de voir pourrait être ce corps qui vieillit, on pourrait avoir en nous une manière de voir comme ce corps qui maintenant est vieux, que j'ai tellement abîmé et qui une espèce de dégoût de notre propre corps ou de désespoir de le voir vieillir, et on aurait vécu tout à fait autre chose parce qu'on aurait vu, on l'aurait regardé à travers d'autres concepts. Par exemple, un autre exemple, donc je suis asthmatique depuis mon enfance et je prends depuis pas mal d'années, je prends un médicament qui s'appelle du Symbicort. J'en prends le matin et le soir. Et en fait, quand j'ai commencé à prendre ce médicament, avant je prenais de la Ventoline. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le spray là, mais la Ventoline, en fait, ça régulait pas du tout. Ça veut dire que il y a des moments ça allait mieux et puis de nouveau je sentais l'oppression de la respiration. Et puis quand est arrivé ce Symbicort, maintenant j'ai une respiration assez égale en fait. Et du coup, ben, j'ai de la gratitude pour ce Symbicort. Et puis, est venu, au moment du Covid, il y a eu un moment où pendant un mois, il n'a plus été disponible en pharmacie. Alors là, je me suis rendu compte de comment ce médicament était important pour moi. Et quand il est redevenu disponible, et puis depuis, en fait, chaque fois que j'en prends, je ressens vraiment la chance d'avoir ce médicament. Mais je pourrais aussi, ça c'est une manière de voir en fait cette gratitude, je pourrais avoir une toute autre manière de voir qui est de l'apitoiement sur moi-même parce que j'ai une maladie, je suis obligé de prendre un médicament. Je pourrais avoir une manière de voir qui me dit, en fait ce médicament il est mauvais pour toi, il te détruit, si ça se trouve c'est pas bon pour le foie, c'est pas bon pour ceci, pas bon pour cela, c'est d'être dépendant. Vous voyez, il y a plein de manières de voir cette situation. Et personnellement, en fonction de notre construction mentale, en fonction de nos conceptions, on va concevoir cet événement de prendre ce médicament d'une façon très différente. Et du coup, on va le vivre d'une façon très très différente. Une autre manière de voir dont on a légèrement discuté, c'est la non-dualité que je présentais avec cette phrase de Nisargadatta Maharaj, ce qui est réel ne meurt jamais, ce qui n'est pas réel n'a jamais existé. Définitif, voilà, voyez le monde comme ça. Voyez le monde comme tout ce qui a un début, une durée et une fin n'existe pas vraiment. Ok? C'est une manière de voir. Quand on voit le monde comme ça, quand on se voit soi-même comme ça, le corps a un début, une durée, une fin. Tout ce qu'on peut observer a un début, une durée, une fin. Ça change complètement notre relation à la totalité des phénomènes, à la totalité de ce qui apparaît, à la totalité des manifestations, à la totalité des perceptions. Ça change notre relation à la totalité de ce qui est perçu. Quand on comprend cette manière de voir et qu'on arrive à la faire sienne et qu'on arrive à voir le monde comme ça change la relation qu'on a au monde, ça change la relation qu'on a à nous-mêmes. Ça change tout, ça change l'ego, ça change la manière d'aimer, ça change l'application, ça change, dans tous les domaines, ça change. Cet exemple que je prends souvent, et ça va aider certains d'entre vous à connecter ce discours avec d'autres discours que j'ai eu avant, c'est la manière de voir qui est en Inde. Nous, on pense qu'on est un corps qui a un esprit. Pour les Indiens, ils sont des esprits qui ont pris un corps. Change tout. Ça change tout. C'est plus la manière même de, c'est plus les mêmes valeurs, c'est plus les mêmes priorités, c'est plus les mêmes importances, c'est plus les mêmes peurs, c'est plus les mêmes identifications, c'est plus le même regard sur la vie, c'est plus le même regard sur la mort. Ça change tout. Nous, on est incapable d'imaginer comment perçoivent les Indiens, comment ils vivent, comment ils relationnent à chaque chose, à leur corps, à leur femme, à tout. On voit l'extérieur des choses, mais on ne voit pas l'intérieur des choses. On en est incapable. Déjà entre nous. D'une personne à l'autre. Les manières de voir diffèrent énormément et du coup, les perceptions diffèrent. Les interprétations et les perceptions. J'y viendrai plus tard. La compassion est une manière de voir. Quand on ramène celui qui comprend et qui a pratiqué la compassion et qui a suffisamment et qui arrive à voir le monde avec compassion, qui arrive à se voir avec compassion et les autres avec compassion, il va faire une expérience de la vie complètement différente de celui qui voit le tout à travers l'égocentrisme, par exemple, qui est un peu l'antithèse. Quelqu'un qui voit le monde à travers la compassion va voir quelqu'un et va se sentir connecté à cette personne, quelqu'un qui voit à travers je suis une entité séparée, isolée, et qui pour sa survie et pour son bonheur dépend du fait d'avoir de plus en plus, moi d'abord et après les autres. Quand il voit arriver quelqu'un, eh bien, il va avoir intuitivement comment est-ce qu'il peut m'être utile cette personne. Comment cette personne peut m'être utile? Qu'est-ce que j'ai à y gagner de cette rencontre? Il va y avoir ça dans cette tournure d'esprit. Donc on va voir en fonction de ce qui est important pour nous, on va voir en fonction de ces manières de voir. On ne voit pas le même monde. On ne se connecte pas au même monde. Je navigue entre plein de niveaux ici. Vous voyez, quand je vous disais que c'est vraiment un chantier d'exploration, je navigue entre plein de niveaux. Il y a plein de finesse et de subtilité à mettre dans tout ce que je dis. Et moi, j'y vais avec mes grosses godasses d'un côté à l'autre. Je vous laisserai faire les liens, les ponts et puis chercher. On ne fait pas l'expérience du même monde et ça me fait penser à dans un livre de Daniel Goleman, parle de il prend l'exemple de quelques personnes qui rentrent dans une pièce. Chaque personne va voir quelque chose de différent parce que par exemple la personne qui a un bébé va directement voir les petites couches qui sont dans un coin ou les jouets qui sont dans un coin. Celui qui est musicien va voir que là il y a une guitare. C'est ça qui va attirer son regard en premier. Celui qui a peur des araignées va voir les 3 toiles d'araignées qui sont au plafond. Et en fait, chacun va avoir une perception de la pièce qui dépend de ses priorités, de ses intérêts et de la manière dont il s'est lui-même développé. Et donc, on ne fait pas l'expérience du même monde. Le Bouddha a enseigné des manières de voir, comme l'impermanence, par exemple. L'impermanence est une compréhension, mais après, c'est aussi une manière de voir. C'est-à-dire que quand on a dans notre regard la conscience de l'impermanence, on a tendance à moins saisir les choses, à moins essayer que les choses durent, on s'agrippe moins au plaisant, on est patient quand quelque chose nous déplaît parce qu'on sait que ça va passer. Ça change notre attitude vis-à-vis des choses qui vont et qui viennent. Ça permet à l'esprit de se poser. Si vous comprenez la permanence et que vous pratiquez la permanence comme manière de voir, et ça se fait en méditation, et il y a des méditations guidées, j'en ai sur le site, si ça vous intéresse, vous pouvez pratiquer voir la permanence et réussir, en fait, à voir comment ça transforme notre expérience d'être conscient du fait que chaque chose qui a un début a une fin. Et du coup, de ne plus investir un sens de durable dans les choses. Et puis le Bouddha a enseigné le non-soi, la vacuité du soi. Ça, c'est énorme. Rien qu'à la comprendre, celle-là, faut y aller. Hein. Mais quand on la comprend, il y a quelque chose qui libère. Comme David Hume, hein, qui en disant, quand je regarde en moi, je ne me suis jamais attrapé sans perception de ceci ou de cela, et je ne peux voir que des perceptions. L'idée d'un soi est quelque chose qui est surajouté, mais qui n'est trouvable nulle part, et d'avoir réalisé ça m'a complètement changé ma vie, parce que j'avais l'impression de vivre dans un tube de verre, et maintenant je suis à l'air libre. Et c'est beaucoup plus facile pour moi de me sentir proche des autres. En gros, c'est ça qu'il dit. Il a changé de manière de voir, de se voir, de se concevoir. Et chaque manière de voir va induire une manière de percevoir. Et Heidegger parle de mode de présence. Une manière de voir est un mode de présence. Donc si je regarde avec compassion, c'est une manière d'être présent au monde qui est différente de si je regarde de la façon de la pleine conscience. Si ma manière de voir est matérialiste, ça va être un mode de présence au monde qui est très différent de si ma manière de voir est spirituelle. On va voir, en fait, on va induire d'autres perceptions. On va percevoir d'autres choses. On va pas simplement voir différemment des choses que tout le monde voit, on va aussi induire et pouvoir percevoir des choses que d'autres modes de présence ne nous révéleront pas. C'est là que ça devient chaud. Juste pour passer, sans aller vers le non-soi, j'espère ne pas aller vers là maintenant. Je vais essayer. Mais juste passer quand même sur l'identité. La transformation de la manière de se concevoir. Déjà ce mot, concevoir, ça veut dire imaginer et ça veut dire créer. Je ne peux pas concevoir une chose pareille, je ne peux pas imaginer une chose pareille. Ou concevoir un enfant. Ah, c'est beau, hein? Imaginer et créer. La manière dont on conçoit notre identité va créer la manière dont on se vit, va créer ce qu'on peut percevoir et ce qu'on ne peut pas percevoir, et la manière dont on va donner réalité à certaines choses et pas à d'autres. Je vais essayer d'expliquer ça. Je pense, j'ai pas fait suffisamment de recherches, mais je pense que c'est assez récent. Je sais que la psychologie, c'est vers le 19e siècle que c'est devenu une étude, une discipline scientifique. Il y avait déjà depuis longtemps des études de la psyché, mais c'est devenu une discipline scientifique. Et je pense que c'est vers cette époque-là que on a commencé à concevoir, à imaginer que la totalité de nos expériences viennent de notre esprit. Je m'explique. Quand on dit quelqu'un est un génie. Hein? Il a du génie, il est un génie, comme Einstein, par exemple, on en parlait. On conçoit, nous, dans notre société, dans notre culture, à cette époque-ci, que le génie appartient à son cerveau. Mais en fait, l'étymologie du mot génie, un génie, c'était quelque chose qui était à l'extérieur et qui visitait une personne. Le génie était une entité extérieure à la personne. Et c'est nouveau qu'on considère que le génie est la propriété du cerveau. Et cet homme a du génie. Et il y a beaucoup de choses, en fait, comme ça. Avant, l'homme se considérait, dans le cosmos, l'homme se considérait comme le terrain de rencontre de forces extérieures. Dieu et le diable, toutes les grandes épopées, c'est des choses qui existaient en dehors de l'homme et qui se produisaient et que l'homme vivait, des forces extérieures qui se vivaient à l'intérieur. Dans le bouddhisme, c'est toujours le cas. Et dans l'hindouisme, les dieux, par exemple, sont des formes extérieures qui ont une manifestation intérieure. Et donc, par exemple, quand Bouddha, au moment de l'illumination, il y a donc juste avant d'atteindre l'illumination, il y a Mara qui est le tentateur, un peu on va dire le démon, le diable. Ben, c'est pas bon business pour Mara que le Bouddha y voit clair dans la nature de la réalité. Et du coup, il essaye en fait d'empêcher sa réalisation. Il y a toute une histoire là. Mais Mara et le Bouddha, en fait, ils ont une conversation. Mais le Bouddha, pour lui, c'est pas dans sa psychologie. C'est une conversation avec une entité extérieure. C'est sa conception des choses. C'est deux conceptions différentes. C'est deux manières d'expliquer différemment un phénomène. Nous, on explique les phénomènes, c'est tout, tout est à l'intérieur de nous, tout est de notre responsabilité, tout est notre création, tout est de notre imaginaire, tout est du fonctionnement de notre cerveau. C'est même pas l'esprit pour nous, c'est le cerveau. On est au summum du matérialisme. Le matérialisme, ça ne veut pas juste dire la consommation. Le matérialisme aussi, ça veut dire qu'on se considère uniquement comme matière. On est incapable de se considérer comme autre chose que de la matière qui a évolué dans le temps. C'est ça, en fait, le paradigme actuel. Ça, c'est notre manière de voir. C'est notre manière de nous concevoir. On est incapable de s'imaginer en dehors de ça, de se concevoir autrement que le produit de la matière qui a évolué dans le temps depuis le Big Bang et puis les atomes qui sont mis ensemble, les molécules et puis peu à peu, tac, tac, et ça crée un cerveau. Et c'est pour la majorité des neuroscientifiques le cerveau qui crée la sensation de conscience, la totalité de l'activité cérébrale. Et cette manière de voir a des avantages et pose des problèmes. Et nous, on est là. Alors les avantages, ben, c'est super. Mais pour les problèmes, on en a des lourds quand même. Et ça génère un manque d'espace d'être enfermé dans cette seule manière de nous voir et de nous concevoir, qui crée énormément de souffrance. Et c'est pour ça que si on change la manière de nous concevoir, on va à la racine de ce qui crée la souffrance plutôt que d'essayer de générer la souffrance au moment où elle vient. Nous avons, ce que j'essaie de dire, c'est que dans notre culture, nous avons à cette époque une conception, un cadre conceptuel, une conception de nous-mêmes qui est très étriquée, assez pauvre, qui laisse peu de place à d'autres manières de nous de relationner à nous-mêmes, et que cela, ça génère pas mal de mal-être. Et que ce mal-être, quand on essaie de le gérer au niveau, par exemple, on va faire de la méditation, on peut, et c'est utile d'observer nos émotions difficiles, de ramener de la bienveillance, de ramener de la gratitude, de trouver différentes manières de soigner, de trouver différentes manières d'apaiser l'esprit. Mais pourquoi est-ce que l'esprit est dans un tel état d'agitation? Pour moi, c'est parce qu'il ne trouve pas son compte dans la manière dont on se raconte. C'est trop pauvre, la manière dont on se, dont on se conçoit, dont on se considère. C'est pas une question de juste ou de faux. C'est pas qu'on est autre chose. C'est que c'est trop peu. Prenons par exemple, revenons, si on revient à cette conception matérialiste, on se considère comme de la matière. Je veux dire, peut-être que vous allez dire, oui, mais non, mais moi j'ai une vision différente. Je sens bien qu'il y a, que vous utilisiez le mot âme ou esprit, ou je sens bien qu'il y a autre chose et tout ça. C'est vrai, peut-être, mais ça n'empêche que nous avons grandi dans une société qui ne soutient pas d'autres manières de voir que la manière matérialiste globalement, et donc du coup, nous sommes beaucoup plus enfermés dans cette manière de voir, et donc elle est plus nôtre peut-être que ce qu'on ne veut le, que de ce qu'on ne peut le voir. Imaginons par exemple notre relation à la mort. Dépend évidemment de la manière dont on conçoit la vie, dont on se conçoit nous-mêmes. Si dans un monde matérialiste, quand le corps s'arrête, la vie est finie. Point barre, terminé. Cette manière de voir là ne va pas laisser place ou ne va pas nous offrir un cadre conceptuel satisfaisant, à mon avis, pour, comme certains d'entre vous le disaient dans le cercle de partage, pour continuer à avoir une relation avec un parent décédé. Parce que vu qu'il est mort, dans notre manière de voir, plus rien n'existe. Et donc tout ce qu'on peut avoir comme relation avec un parent décédé est imaginaire. Imaginaire veut dire faux. Irréel, au moins. Au moins. Ça sera peut-être considéré comme pas méchant. Mais ça ne sera pas considéré comme réel. Alors qu'en fait, il y a d'autres manières de voir. Par exemple, on peut dire que notre relation, moi, je vous connais tous. Je vous connais tous, pas simplement de cette retraite, mais de la retraite avant. Vous existez tous d'une certaine manière en moi. Pourquoi? Parce que j'ai une relation avec vous, j'ai des idées, j'ai des sensations, j'ai en fait, vous faites partie de mon monde intérieur. Quand je vous perçois à l'intérieur et je vous perçois à ma manière. Vous faites en fait, je vois chacun d'entre vous. Je ne peux pas dire, je ne pourrais pas dire, Tala est comme ça ou Yann est comme ça. Je ne pourrais pas dire ça. Je peux juste dire, je perçois Tala comme ça, je perçois Yann comme ça. Pourquoi? Parce que dans chacun d'entre vous, en fait, il y a la manière dont je vous perçois, il y a de l'imaginaire, beaucoup d'imaginaire. Je vous imagine d'une certaine manière, de la même façon que la manière dont moi je me perçois est pleine d'imaginaire. Moi, je suis une histoire que je me raconte à moi-même. Et vous, dans notre relation, ma perception de vous est beaucoup aussi une histoire que je me raconte à moi-même. Je ne peux pas dire vous êtes comme ça. Et cette histoire, cette manière d'être en relation avec vous, d'ailleurs je peux être en relation avec vous quand vous n'êtes pas là aussi. On l'a fait de nouveau avec Meta. On a été en relation avec des gens qui n'étaient pas là. Et pourtant on sent bien leur présence, on sent bien leur personnalité. Pourquoi? Parce qu'on a, dans notre relation qu'on a avec le corps, des gens au moment où ils sont là, on a aussi cette relation, elle se produit en nous et il y a une partie de nous qui est active, qui crée cette relation, qui imagine cette personne. Et toute cette partie-là, quand le corps décède, ne disparaît pas. On garde cette relation parce que c'est pas que elle devient imaginaire. C'est que dans une certaine mesure, elle l'a toujours été. C'est ça la relation. L'imaginaire permet de donner un sens, l'imaginaire permet de se connecter, de créer une histoire qui fait notre lien. Et ça, la vie ou la mort du corps n'y change rien. Mais notre cadre conceptuel est trop pauvre, en fait, pour pouvoir accueillir ce genre de notion. Ce qu'il nous faut, c'est pas une manière de voir qui est juste, c'est une pluralité de manières de voir. La capacité de voir des choses qui se présentent de façon complètement différente. Par exemple, David Hume, qui en est arrivé à la conclusion qu'il n'avait pas, que l'identité n'était pas réelle, a bien sûr besoin de garder sa relation à son identité pour pouvoir fonctionner dans le monde. La manière de voir de cette identité construite, qu'on s'est construite, donc de se voir comme un choix séparé, est utile dans certaines circonstances. Donc il faut pouvoir l'emprunter et vivre avec ça. Mais il faut pouvoir de temps en temps la raccrocher et puis voir nous voir comme des êtres interdépendants et voir qu'en fait rien de ce qui nous construit n'est nous. Rien de la matière de ce qui fait que ce que nous sommes n'est nous. Rien, aucune de nos idées ne sont nôtres. Elles sont le produit de l'évolution de toutes ces idées qu'il y a dans le monde et de celles qu'on a entendues. Ça, c'est une autre manière de voir. Et la capacité de passer de une à l'autre. Et puis la manière de voir que le monde est illusoire et n'a pas vraiment d'existence, elle est aussi magnifique, cette manière de voir. Et du coup, de pouvoir aussi voir comme ça. Mais c'est énorme. Il y a quelque chose d'absolument énorme à comprendre là. Un autre exemple. Je vais continuer encore un peu et puis rassurez-vous, je m'arrêterai. Mais voilà, j'aimerais bien pousser un peu plus loin. Un autre exemple de comment la manière de voir notre identité impacte sur la manière dont on explique chaque chose de nous-mêmes, c'est par exemple l'éco-anxiété. C'est un terme assez nouveau. Donc l'éco-anxiété, qui est un terme assez récent en fait, et qui parle de ce dont souffrent de plus en plus de jeunes, pas que des jeunes, mais beaucoup des jeunes, qui est cette angoisse du futur par rapport à la situation écologique de la Terre. Donc c'est des choses que les psychologues en fait rencontrent de plus en plus, des jeunes qui viennent en consultation, et c'est traité comme une fragilité de l'esprit qui s'exprime chez certaines personnes. Johanna Macy, qui est une activiste et méditante, elle suggère que, en fait, quand on ressent cette anxiété, c'est parce qu'on ressent la souffrance de la Terre. Parce qu'on a une connexion avec la Terre et qu'on ressent sa souffrance. C'est une autre explication. C'est plus de la psychologie où nous sommes le centre de toutes nos émotions et de toutes nos expériences. Une autre manière de voir qui va donner un autre mode de présence. Imaginez le mode de présence du jeune à qui on dit c'est de l'éco-anxiété, c'est parce que... Et le jeune qui comprend qu'en fait c'est parce qu'il a un lien avec la Terre et qu'il ressent en fait la souffrance de la Terre. Ça va être deux manières de vivre la même chose d'une façon complètement différente. Ça va ouvrir des portes ou fermer des portes. Lequel est bon, lequel est mauvais, je ne parle même pas de ça. Juste j'essaye de montrer comment ces manières de voir et de concevoir créent la relation et ouvrent des possibilités ou ferment des possibilités, dévoilent des mondes ou ferment la porte de certains mondes. Je me suis beaucoup intéressé ces derniers temps à un philosophe qui s'appelle Henri Corbin et qui a étudié, qui a été passionné par l'islam chiite en Perse, une tradition qui vient du XVIe siècle en fait. Lui est un Français qui est décédé il n'y a pas très très longtemps et qui a fait un travail absolument extraordinaire, immense en fait sur la nécessité de l'imaginaire, la réalité ontologique de l'imaginaire. Alors je vais certainement pas me lancer par là, surtout en fin de discours comme ça, mais une chose qu'il dit ici, une citation de lui, La formation qu'elle se donne à elle-même est le secret d'une âme, de même qu'elle est le secret de ses métamorphoses. Plus chaque monade, c'est un autre mot pour âme, plus chaque monade intègre de perception et de représentation de l'univers, plus elle déploie sa perfection propre et se différencie de chaque autre. On ne peut pas voir le monde, pour moi, ce que je comprends de ça, c'est qu'on ne peut pas voir le monde d'une seule façon. Il y a plein de manières de faire sens de ce monde. Et on a besoin de plein de manières de faire sens. Merci pour votre écoute.
Et un petit mot de la fin. Soutenu par l'association Dharma Nature, je fais le choix de proposer ces discours de façon libre et non commerciale. Si vous appréciez les écouter, s'ils vous sont utiles, pensez à nous soutenir de temps en temps avec un don que vous pouvez envoyer depuis le site www.dharmanature.org. Sachez qu'aucune somme n'est trop petite, car votre démarche exprime votre considération et ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite une belle journée et une belle pratique.